Petronilli publia en 2003 un roman magnifique, « L'Apocalypse selon Ecuador ». Il y était question d'une petite fille qui incarnait le mal. Ecuador avait une façon extraordinaire d'être diabolique. Les gens se réjouirent. Autant pour les deux livres précédents, il avait été impossible de faire du biographisme, autant celui-ci les y autorisait. « Ecuador, c'est vous enfant, n'est-ce pas ?» Elle les éconduisait avec une aimable habileté qui les irrita. Les journalistes aimaient peu cette romancière qui ne donnait aucune prise sur sa vie. En compensation, elle plaisait beaucoup aux écrivains. Ils appréciaient son tempérament profondément littéraire et la qualité de sa lecture de leurs propres livres. J'en sais quelque chose et je suis loin d'être la seule. Petronilli noua des amitiés intenses avec nombre d'écrivains, dont Carol Zalberg, Alain Mabankou, Pia Peterson et Pierrette Fleutiot. Sur ses amours, elle demeurait taciturne. Cette jolie garçonne faisait des ravages, mais je ne savais pas lesquels. Quand je me rendais à ses dédicaces, il y avait pas mal de filles ravissantes, sans que cela exclût de beaux jeunes hommes. Son ambiguïté sexuelle fascinait. Le plus drôle, c'est que plusieurs jeunes femmes vinrent me demander conseil. Ces ravissantes suscitaient ma compassion. Mon statut de compagne de beuverie était déjà ardu, je n'osais imaginer la difficulté du sort d'une amoureuse de Petronille. Je disais « Vous savez, Mademoiselle Fanto n'est pas une science exacte. » Pour prudente qu'elle fût, cette réponse devait être encore trop risquée. En effet, il me revint aux oreilles qu'après de prévisibles désastres, liaison éclair, abandon immédiat, les répudiés s'en prenaient à moi, m'accusant de leur déboire. Je me permets de m'en offusquer. S'il est une chose que je déteste encore plus que la jalousie, c'est l'indiscrétion. L'attitude des demoiselles et conduites n'était pas dénuée de logique. Il était moins douloureux pour leur orgueil de s'imaginer victime d'une manipulation perverse que de s'accepter décevante. Mais elle était parfaitement inconcevable pour moi. J'avais déjà tant de mal à comprendre mes amours, je n'allais pas m'occuper de celles des autres. Par ailleurs, d'après le peu que je connaissais des mœurs de Petronille, il n'y avait pas lieu de s'étonner de ses comportements. Elle déclarait elle-même devoir son caractère explosif à ses origines andorranes. Si elle avait possédé le couteau à cran d'arrêt dont elle rêvait, nul doute qu'elle s'en serait beaucoup servie. Un rien l'excédait. Quand je la voyais partir au quart de tour pour des motifs qui m'échappaient, j'essayais de la rattraper par l'humour et j'y réussissais parfois. L'une de mes méthodes consistait à dire « C'est fou ce que tu ressembles à Robert De Niro devant son miroir dans Taxi Driver ». Quand cela marchait, elle devenait illico Robert De Niro et répétait « You're talking to me ?» avec l'accent ad hoc. Mais quand cela ne fonctionnait pas, elle piquait d'interminables colères dignes d'un chef de gang. « Tu as fini de te prendre pour Lino Ventura dans les Tontons Flingueurs ?» Telle était alors ma dernière parade. Le nom de Lino Ventura agissait comme un joker. « Papa !» s'exclamait-elle. Ventura était son père fantasmé. Lorsque la télévision diffusait un film où il jouait, Petronille m'invitait à le voir chez elle. Son apparition à l'écran la mettait en transe. « Tu trouves pas qu'il y a un air de famille ?» demandait-elle. « Il y a quelque chose. » « Il est mon père, j'en suis sûre !» La probabilité que Françoise Fanto ait fauté avec le célèbre acteur au milieu des années 70 avoisinait moins 20. Mais tant qu'à se choisir une figure paternelle idéale, Petronille aurait pu tomber plus mal. En 2005, je publiais « Acide sulfurique ». À ce jour, c'est le seul de mes romans qui suscita des réactions hostiles. On me reprocha de comparer la barbarie de certaines émissions de télé-réalité avec celle de l'univers concentrationnaire. Les attaques furent malhonnêtes. Mon roman, qui se situait dans un futur proche, ne prétendait pas qualifier qui que ce fût de fasciste. On était dans la fiction, et c'est ce qui finit par calmer le jeu. Il n'empêche que je traversais une période sinon difficile, au moins délicate. Le champagne fut un précieux allié. Ainsi que celle qui était devenue mon satellite. Petronille venait alors de publier son roman le plus jubilatoire, « Les Coriaces ». Il s'agissait un peu de sa version du chef-d'œuvre hollywoodien « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?». Elle estimait avec raison que la presse ne parlait pas assez de son livre. Nous vidions nos flûtes en partageant nos déconvenues respectives. Un jour, elle m'engueula. « Tu te rends pas compte ? Je rêverais d'être à ta place !» « Tu crois que c'est agréable de recevoir des insultes ? Et être ignoré, tu penses que c'est facile? Tu exagères. Ton livre ne passe pas inaperçu. Arrête, je t'en prie. Je supporte pas ton espèce d'indulgence à la noix. Dis tout de suite que mon bouquin ne méritait pas mieux. Procès d'intention. Je n'ai jamais dit ça. Et pour cause, je ne le pense pas. Alors cesse de pleurer sur ton sort. T'es pas à plaindre.
Je ne pleure pas. Je l'ai seulement un peu mauvaise.
Chochotte. Nos chamailleries nous apparentaient à ces personnages. En plus jeune, nous ressemblions aux pochetronnes coléreuses qu'elle décrivait. Un écrivain se reconnaît à son caractère immédiatement prophétique. Je ne sais pas si mon acide sulfurique s'est vérifié quant à l'évolution de la télé-réalité, mais je suis sûre que ces coriaces se sont incarnées dans nos querelles de cet automne-là. Ce qui prouve, s'il le fallait, que Petroni Fanto était un authentique écrivain. À la fin de l'année, je trouvais ce message sur mon répondeur. « L'oiseau, prépare ton meilleur champagne. Je serai chez toi demain à 18h. J'ai une nouvelle à t'annoncer. » Un Dom Pérignon 1976 fut aussitôt mis à rafraîchir. Qu'allait-elle donc me dire? Avait-elle rencontré quelqu'un? Était-elle amoureuse? Elle but la première gorgée avec délice et déclara que cela lui manquerait. « Tu arrêtes l'alcool ?» demandai-je, très inquiète. « En quelque sorte, je pars. »
« Où ?»
Elle eut un geste vague qui balayait d'immenses territoires. « Je vais traverser le Sahara à pied. » Dans la bouche de n'importe qui d'autre, un tel propos m'eût amusé. Mais Petroni n'était pas velléitaire pour deux sous, et je sus qu'elle allait vraiment effectuer cette folie.
« Pourquoi ?»
balbutiai-je. « Il le faut. Si je reste ici plus longtemps, je vais attraper les vilaines manières des gens de lettres. »«
C'est évitable. Regarde, moi je ne les ai pas. »«
T'es pas normal. Moi j'ai besoin de ça, je t'assure. » « Je ne veux pas devenir une personne rance. »«
Rance? Toi? C'est impossible !»«
Je viens d'avoir 30 ans. »
C'était insoupçonnable. Elle semblait à peine plus âgée que lors de notre première rencontre où je lui avais donné 15 ans. Elle en paraissait 17. « Combien de temps pars-tu ? » ?»«
Va savoir. »«
Tu reviendras ?»«
Oui. »«
Tu es sûre ?»
En guise de réponse, elle sortit de son sac un paquet qu'elle me tendit. « Je te confie mon nouveau manuscrit. Il a de la valeur. Les éditeurs, j'en ai ma claque. Si tu trouves qu'il mérite d'être publié, je te demande de t'en occuper. Je suis fière de ce manuscrit et j'ai bien l'intention d'en assumer la maternité. Donc, considère-le comme la preuve que je reviendrai. »
Je bus avec effort une gorgée du meilleur champagne du monde.
« J'apprécie que tu ne me proposes pas de m'accompagner. » dit-elle.
Je suis comme toi. Je n'annonce jamais des choses que je ne ferai pas. Le Sahara à pied, c'est évidemment sublime, mais ce n'est pas pour moi.
Quand pars-tu? Demain.
Pardon?
Il le faut, sinon je vais avoir une attitude de gens de lettres. Je vais attendre ce que tu penses de mon manuscrit.
Je peux le lire cette nuit?
Non, je te connais, tu ne lis jamais en état d'ivresse.
Comment sais-tu que je serai ivre? Demandai-je en portant la flûte à mes lèvres.
Elle rit de son merveilleux rire plein de santé.
« Tu vas me manquer, » dis-je.
J'avais le menton qui tremblait.
« Ce que t'es sentimental !»
s'écria-t-elle, les yeux au ciel. « En effet, j'appartiens à la race de ceux qui pleurent quand leurs amis partent sans connaître la date de leur retour. J'ai une très grande expérience des séparations. Je sais mieux que personne leur danger. Quitter quelqu'un en se promettant qu'on va se revoir, cela présage les choses les plus graves. Le cas le plus fréquent, c'est qu'on ne revoit pas l'individu en question. Et ce n'est pas la pire éventualité. La pire consiste à revoir la personne et à ne pas la reconnaître. Soit qu'elle ait réellement beaucoup changé, soit qu'on lui découvre alors un aspect incroyablement déplaisant qui devait exister déjà, mais sur lequel on avait réussi à s'aveugler au nom de cette étrange forme d'amour si mystérieuse, si dangereuse et dont l'enjeu échappe toujours, l'amitié. Les grands sentiments ont besoin de combustible. Il fallut déboucher une deuxième bouteille. Quand je sus que j'allais cesser d'être présentable, je jetai Petroni dehors. Par la fenêtre, je regardais s'éloigner dans la nuit la petite silhouette frêle. Les larmes déferlaient sur mes joues.
Comment vais-je faire sans toi, espèce de singe ? L'apostrophai-je. J'allais m'effondrer sur mon lit, plus morte que vive.